Popopienne, Popopien et tous les autres aussi, bonjour. C'est un double voyage que Popopop vous propose aujourd'hui, un voyage spatio-temporel. Or, je vous rassure, aucune destination exotique du type Ushuaïa, particulièrement déconseillée aux Popopiennes depuis qu'on a découvert que Nicolas y allait en tant culot, ou aucune époque lointaine type 1933 dont nous semblons percevoir parfois quelques effluves. Non, aujourd'hui, grâce à Pascal Rabaté, notre invité, magnifique auteur de BD et cinéaste par ailleurs, c'est un loctudie dans le Finistère que dans l'arrière-saison de 1963 que nous vous emmenons promener. Grâce à la fiction, oubliez masque, gel et autres gestes barrières et plongez, si je puis dire, sous les galets. Vous y trouverez la plage, puisque c'est le titre de cette nouvelle BD de Rabaté, Sous les galets, la plage. Une histoire tout à fait immorale, puisqu'elle contrevient à l'un des 10 commandements, mais extrêmement réjouissante, ce qui est toujours bon à prendre par les temps qui courent. Pascal Rabaté est donc l'invité de Popopop pour parler de galets, de plages, de Bretagne, d'arrière-saison et autres cambrioles croquignolesques. Cette émission a pour titre « À l'aise braise » et « Pop, pop, pop », c'est parti.
France Inter, Pop, 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 Antoine de Gaulle.
Bonjour Pascal Rabaté.
Bonjour.
Bienvenue dans Pop, pop, pop.
Merci de me recevoir.
Ah, je suis ravi de vous accueillir. Cette émission s'appelle donc « À l'aise braise » car il va être grandement question de... Eh oui, eh oui, eh oui, évidemment, l'éternel Bignou de Bretagne, car vous nous embarquez à Loctudie, cette petite commune bretonne, avec cette BD sous les galets de la plage. J'ai remarqué, j'ai noté que si l'on inverse les lettres de votre nom, Rabaté, on trouve Barat, comme le bombeur breton. C'est pour cette raison que l'intrigue se passe là-bas, peut-être?
Ah non, pas du tout, pas du tout. On me l'avait déjà fait à l'école, déjà.
Ah, depuis... Oh, vous voulez dire que je ne suis pas le premier
Non.
Cet anagramme subtil.
On m'appelait Baraté, je leur ai dit avec Rabaté, il y avait déjà assez à se foutre de ma gueule pour aller chercher ailleurs.
Ça vous a traumatisé ou pas?
Oh, même pas.
Ça passait au-dessus.
Je ne dirais pas le nom de celui qui se moquait de moi.
Allez-y, dites-le.
Chivert, il s'appelait.
Chivert?
Oui.
Alors, dites donc, ça peut prêter le flanc à la plaisanterie aussi, ça. Enfin, ça dépend
de
son régime alimentaire.
Je ne mange pas de ce pain-là.
D'accord, vous êtes au-dessus de ça. Bon. Avec ce titre, Sous les galets et la plage, il y a évidemment une référence à mai 68, mais cet album aurait pu également s'appeler Sous les palets, la plage. Les palets étant ces petits biscuits secs en pâte sablée très épais, contenant à peu près, selon mes estimations, 99% de beurre. Sous les palets, la plage n'a pas été envisagé par
votre éditeur. Non. Il y a eu d'autres trucs, mais là, j'ai bloqué. Sous les petits lus, la plage. Maintenant que je suis à Nantes...
Ah, mais est-ce que Nantes est en Bretagne, Pascal Rabaté?
Je tairai le débat.
Ah, ouais,
ma femme est bretonne.
Oui. Donc... Je vois qu'on ne veut pas se mouiller.
Non,
très bien.
Non.
Bon, on a déjà balancé Chivert, mais on va pas se décider pour savoir si Nantes est en Bretagne ou pas. Bon, le titre qui fait référence aux enfants de mai 68 s'est imposé naturellement. Pascal Rabaté, c'est votre combientième album?
Alors, je sais plus trop, on est entre... comme il y a eu des rééditions, enfin on est à 40 à tout casser.
J'avais une fourchette entre 40 et 50 quand même.
Oui, mais je pense qu'on met aussi les rééditions, c'est-à-dire que Hibicus 1, 2, ouais. 3, 4, et puis Intégrale 1, Intégrale 2.
Ouais.
Donc là, ça fait déjà du...
D'accord.
Un léger mensonge, okay. Une licence poétique,
et
économique.
Et la réédition de la déconfiture,
oui.
En format poche, là, chez Futuropolis. Oui, donc vous êtes partout. Mais est-ce qu'à la sortie donc de ce 40e ou je ne sais combienième album, vous avez éprouvé la même sensation une fois le travail achevé que pour votre premier ouvrage, Exode, en 89?
Non, pas tout à fait.
Qu'est-ce qui a changé?
Le fait que j'avais un contrat pour celui-là et qu'en 89,
ouais.
J'en avais pas.
Ouais.
Donc ça change beaucoup de choses. On se dit, est-ce que ça va plaire, est-ce que ça va pas plaire? Là... A priori, j'étais bien accueilli et donc c'était plus des problèmes de livraison à l'heure, de savoir si j'étais dans le juste trait ou voilà. Enfin, c'était pas les mêmes angoisses.
D'accord. Et pour ce qui est de la satisfaction artistique?
Ah, je sais pas. Je vais pas le lire tout de suite. Je l'ai trop lu en le faisant. Donc on verra. Mais en fait, tous mes livres me déçoivent.
Prends bien, j'espère.
Oui. Me déçoivent dans un premier temps, puis après je m'y fais en me disant bon, voilà, c'était moi une époque, c'est moi une autre.
On va voir un peu. Tous sans exception.
Il y a peut-être Enfin, Hibiscus m'a plu un peu plus longtemps, puis m'a déplu après, quand j'ai refeuilleté là-dedans, en me disant, c'est quand même un petit peu bancal, celui-là, il marche un peu à plat, celui-là, la colonne vertébrale un peu tordue, enfin bon, c'est quand même la fête de la scoliose, enfin, c'est toujours un peu ça, puis après, ben, comme quand je suis dans le feu, j'ai l'impression d'être super exigeant, puis après, ben, c'est le regard...
Bon, écoutez, faites confiance à l'observateur extérieur que je suis, est totalement neutre. Sous les galets à la plage, le petit dernier est une réussite absolument absolue. C'est en sélection d'ailleurs pour le Festival d'Angoulême, et nous allons en parler dans la suite de Pop Pop Pop, juste après le morceau qui illumine la fameuse année 1963 où se déroule l'action de cette nouvelle BD, Pascal, et c'est bien sûr le I Wanna Hold Your Hand des Beatles. Want to hold your hand, les Beatles, en ouverture de ce Pop Pop Pop, et en l'honneur de mon invité Pascal Rabaté, à qui je tiens la main dans cette déambulation radiophonique. Enfin, c'est une image, ne vous inquiétez pas, Pascal. Pascal, nous allons parler tout à l'heure avec Charline Roux de votre nouvel ouvrage Sous les galets la plage, une idée qui est venue pendant la post-production de votre film Les 100 dents. Alors parlons un petit peu de ces fameux 100 dents qui vont sortir au mois d'avril entre les deux tours, c'est ça, de l'élection présidentielle.
Il y a quelqu'un qui m'a dit c'est entre les deux tours jumelles, c'était même pas une blague, j'ai dit non, c'est... Le tour des élections.
Bon, alors, avant d'en parler, avant de parler de ce nouvel album, deux mots de cinéma, puisque ce sera votre quatrième long métrage depuis 2009, après un premier court métrage deux ans plus tôt. Sans comparaison, donc, avec la BD qui reste votre métier premier et où vous produisez environ 10 fois plus, avec cette quarantaine d'albums dont on parlait tout à l'heure. Il vous arrive même de croiser les deux, Les Petits Ruisseaux, par exemple, qui sont devenus un film en 2009. Dites-moi un peu les passerelles qu'il y a entre BD et cinéma dans votre tête.
Je sais pas s'il y en a des vrais. Ça se ressemble sur le il y a le visuel, il y a le mouvement, il y a l'histoire, mais plus je fais des films et plus j'en ai fait 4, mais plus je vois les différences en fait. Quand je fais du cinéma, j'aimerais que les films ne soient adaptables ni en bande dessinée ni en roman. Ouais. Et quand je fais des albums, j'aimerais qu'ils n'existent qu'en livre. Ouais. Mais le cinéma, c'est beaucoup plus proche de la musique. Pour moi, c'est un rythme. Si on réussit pas à le trouver, le truc se casse la gueule. En bande dessinée, on a un peu plus droit à la digression, à des plages un peu calmes sur des cadrages qui laissent le lecteur voyager. En fait, le temps c'est celui du lecteur. Mmh. Celui du cinéma, c'est celui du film dans le meilleur des cas, celui du réel dans le moins bon, et celui qui n'intéresse pas le spectateur dans le pire des cas.
Pascal Rabaté, Les Cent Dents, c'est le titre de votre prochain film, donc, que nous découvrirons en avril. C'est une comédie et c'est l'histoire d'un clan qui vit à rebours de la civilisation dans une décharge et recycle en toute illégalité notre rebut à nous pour s'aménager de manière étonnante à un hameau de briquet de broc. Les Cent Dents, c'est avec Yolande Moreau, Gustave Kervern, François Morel, bande-annonce. Ah bah oui, j'ai oublié de dire, mais il n'y a pas encore de bande-annonce, puisque c'est un film sans dialogue et sans musique. C'est le film le plus radical que vous avez fait, dites-vous ?
Radical dans le sens où il n'y a pas de musique, il n'y a pas de parole, et il n'y a pas de morale. Donc, et pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de spectateurs. Je suis une petite tournée de... J'étais habitué au cinéma avec mes courts-métrages à avoir un succès essentiellement familial. Mmh. Mais là, pour l'instant, on attend un peu. Là, je fais la tournée des petites salles. Mais oui, j'ai essayé de faire du cinéma, de mettre le corps en avant, de faire un cinéma de corps. En fait, c'est ça la chose qui m'intéresse à filmer. C'est le langage du corps. C'est les petits accidents. C'est la beauté des déchets, c'est essayer de voir un peu ce qu'on peut faire avec tout ça.
Si je vous dis, pour vous faire un compliment, que ça pourrait être un mash-up entre les Deschiens, Tati ou le Re de Chabat, vous le prenez bien ?
Ah bah je prends tout. Moi, quand on me dit c'est quoi, j'ai dit voilà, c'est du Tati Punk, Charles Trenet chanté par les Dead Kennedys, c'est un peu ça, c'est un peu une espèce de mélange, une culture qui fait le grand écart, c'est un grand écart mental, puisque physiquement, ça tient plus trop. Mmh. Je laisse ça aux danseurs.
Mmh. Alors, Les Cent Dents fait évidemment référence à notre ancien président François Hollande, qui avait utilisé cette expression malheureuse pour parler de ceux qui vivent dans la misère, et initialement, le film devait s'appeler Les Cent Voix. À quel moment avez-vous privilégié les Cent Dents ou Cent Voix?
Les Cent Voix, on tape 100 voix sur Internet et on en a 5 qui tombent, 5 ou 6 et des récents. Mmh. Et il y avait quelque chose qui était trop politique. Le film est politique comme... Enfin, tout est politique, oui. Mais il est surtout poétique. Donc, il fallait que je trouve quelque chose qui soit une connerie. Mm-hmm. Et j'ai balancé ça à une réunion de travail et tout le monde a rigolé. Je me suis dit, merde, ça va peut-être pas aider le film. Mm-hmm. Et du coup, on est resté là-dessus. Mais c'est vrai que... Désespéranto, j'aimais bien, mais c'est pareil, ça respire pas le sapin de Noël. Donc, on est revenu à des choses, disons, une sorte de second degré, qui peuvent faire penser à Affreux, sale et méchant.
Ouais, mais avec le risque d'être mal pris par les régions hollandaises, par exemple.
Oui. Oui, ça, je leur ai bien fait confiance. Non, parce que là, on n'a eu aucune télé. Ouais. Enfin, bon, c'est pas très grave. Si, un peu quand même. Et puis, en effet, on n'a pas eu de région proche d'Hollande. Mmh. Et puis, à la lecture, pas de région de droite. Mmh.
Bien, alors ce Tati Punk ou ce The Artist qui se passe dans une décharge, c'est le projet cinéma auquel vous êtes le plus attaché, mais comme vous le disiez à l'instant, aucune chaîne télé n'en a voulu pour le diffuser après sa sortie au cinéma. Comment est-ce que vous l'expliquez, ça ?
Ah, je n'explique pas. Enfin, si, je pense qu'il y a eu des changements chez Canal qui ont quand même tordu un peu les financements. Mmh. Après, le CNC a jamais été de... Enfin, on n'a jamais réussi à passer le CNC. Il y avait un truc qui m'est arrivé sur une proposition qui était un peu dans le même projet qui s'appelait Ni à vendre ni à louer, qui était sans dialogue, où on avait une lettre de refus de financement de démarrage qui était « On ne sait pas où Rabaté veut aller ». Et puis, une fois que le film a été fait, ils nous ont renvoyé une lettre comme qu'on n'avait pas l'aide à la post-production parce qu'ils n'aimaient pas où Rabaté était arrivé. Donc, voilà, c'est des espèces de rendez-vous manqués.
Autant d'arguments qui donnent, je l'espère, envie à nos auditeurs de se précipiter pour voir ce film dans les salles. Les Cent Dents, ça sera au mois d'avril. Juste rapidement, il se murmure que votre rencontre avec Gustave Kervern, qui figure dans le film, et Benoît Delépine, qui a eu lieu chez votre éditeur, a été aussi croquignolesque. J'aime bien ce mot. Pouvez-nous la raconter?
Ah bah oui, croquignol, c'est avec les pinicles que j'ai appris à lire, donc... Oui, c'était un rendez-vous d'éditeur. Enfin, je connaissais par téléphone Benoît qui m'avait demandé de faire le logo de d'une association angoumoisine sur des événements culturels. Et puis il m'avait dit, on a trouvé comme personnage célèbre à Angoulême que Ravaillac. Mmh. Donc je lui avais fait un petit logo d'un type qui a les jambes et les pattes écartées, avec des taches de sang aux jonctions des membres. Et on échangeait comme ça, on s'envoyait des mails, on se téléphonait. Et puis il y a eu une proposition de livre qui est née par la boîte d'édition Danger Public. Qu'ils se sont dit, on vous associerait bien tous les trois sur un projet. Et du coup, on a fait une réunion chez eux et Benoît et Gus sont arrivés avec l'apéro bu.
Et n'en racontez pas plus, je vois très bien ce qui a pu se passer après.
Voilà.
Bon, tout ça est très joyeux et ça va convaincre aussi tous les gros landais de se joindre à la foule de ceux qui se précipiteront en salle. Bien, Pascal Rabatté, on va maintenant parler de votre BD Sous les galets la plage avec Charline Roux, juste après le morceau d'un artiste qui a choisi les galets des Trottas pour s'installer. C'est Pete Doherty et je vous propose d'écouter le morceau The Fantasy Life of Poetry and Crime.
Chime in time to a vicious low whine of a chainsaw's grind in the summertime. There's a coppery taste, a gun in your face. High planes drift, slight shape shift across the maritime in the estuary. There's a clue to find in the fantasy life of poetry and crime. Hold Normandy and Saint Maritime in the fantasy life of poetry and crime.
Pop.
Et Charline Roux. Et aujourd'hui, nous recevons Pascal Rabaté pour parler de Sous les galets et la plage, sa nouvelle BD. Alors avant de parler de Bretagne, laissez-moi, Pascal Rabaté, vous présenter une Picarde,
voilà,
Charline
c'est ma
Roux.
Spécificité. Voilà, bonjour.
Preuve que nos régions ont décidément bien du talent. Charline, remontez le temps pour nous emmener en Bretagne en
1962, septembre.
63 même, non ?
62 au début.
62, je crois.
Non, d'accord, 62.
À Kertudy, sur la côte bretonne, Francis, Édouard et Albert, trois garçons de bonne famille, attendent de rentrer dans de prestigieuses écoles qui les mèneront tout droit vers une destinée toute tracée. Leurs parents quittent la station balnéaire, ainsi que la plupart des estivants, qui laissent donc leur résidence secondaire inoccupée. Aux trois garçons, dans le vent, forcément, c'est la Bretagne, la liberté de faire ce qui leur plaît, de siphonner les caves familiales ou encore fantasmer une vie sexuelle peu ou prou inexistante. Un soir de beuverie sur la plage, une mystérieuse jeune femme, Odette, fait son apparition et va considérablement changer leur fin d'été. Le récit part comme une chronique post-adolescente pour devenir tout autre chose. Est-ce que vous vouliez perdre et surprendre le lecteur comme ces trois garçons vont l'être, perdus et surpris ?
À vrai dire, je ne savais pas trop. J'étais en vacances, moi, juste en post-prod, et puis j'ai vu les résidences secondaires. Enfin, j'étais sur une côte qui sentait bon la fraude fiscale. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a derrière ces volets ? On était en arrière-saison. Je me suis dit, c'est la bonne saison pour cambrioler ces baraques. Je me suis endormi dessus, et puis le lendemain, je commençais à avoir un truc qui se déroulait tout seul, avec une envie de parler d'une jeunesse un peu... Enfin, qui avait envie de tout foutre en l'air, quoi. Mmh. Et puis, j'en avais marre d'entendre sur les radios et la télé des vieux sages qui m'emmerdent de plus en plus, et qui sont de moins en moins. Ou des anciens 68ards qui virent...
Conseiller, de conscience.
Directeur de conscience ou conseiller ministériel. Mmh. Donc voilà, c'est parti comme ça.
On en redira un mot tout à l'heure. Et ils vont être surpris, ces trois jeunes gens, par l'apparition de cette femme, Odette, qui, à travers l'histoire, va les révéler à eux-mêmes et leur donner en même temps le goût de la rébellion, de la liberté et de l'amour. Moi, j'y vois une morale corollaire. Sans les femmes, la vie serait d'un ennui abyssal, non ?
Ah bah sûrement. Moi, j'ai été élevé par ma mère, ma sœur, ma tante et ses deux filles. Elle aurait été différente, la vie. Mmh. Peut-être pas moins bien. mais oui, c'est un livre surtout sur l'amour et sur cet élan, c'est la fraîcheur, quoi.
Ouais.
Ce qu'on croit à 20 ans et qu'on aimerait qu'il dure encore tout le reste.
Deux petits indices quant à l'intrigue, au début du livre, sous forme de citation. La propriété, c'est le vol, Proudhon, et avoir une résidence secondaire, c'est du vol aggravé, un inconnu au bataillon. Sous les galets, la plage, un album révolté ou révolutionnaire ?
Plutôt révolté. Je préfère la révolte, parce que ça s'éteint plus vite. Et puis, on est moins déçus que les révolutions, toutes débouchées sur des boucheries, des choses un peu moins rigolotes, enfin des choses un peu cadrées, quoi, un peu trop cadrées. Donc la révolte, il faut juste l'arroser tous les ans, puis ça repart, quoi.
Vous avez un intérêt tout particulier pour les personnages dits en marge, des personnages que vous soignez, en opposant ici aux trois étudiants modèles un trio mené par un homme mystérieux, un anarcambrioleur inspiré par Marius Jacob, anarchiste illégaliste du genre Robin des Bois. Comment est-ce que vous l'avez découvert ?
Oh, je l'avais découvert en achetant la correspondance qui avait été éditée par Dilettante.
Oui.
La correspondance qui tenait avec sa mère, et ça c'était dans les années 80, fin des années 80 je crois, le bouquin était sorti. Et après je me suis aperçu que c'était Marius Jacob qui avait inspiré
Arsène Lupin.
Et aussi un peu le bouquin de Derrien, le voleur.
Mmh.
Et du coup, la correspondance est magnifique. Enfin, il avait une plume formidable. Ouais. Et dedans, il y a une photo de lui avec des yeux qui sont pleins de malice. Et dessous, il y avait une légende. C'était une phrase de Atia, qui était un bandit de grand chemin des années 40, qui disait « Quand on le fixe dans les yeux, on a des envies de pied de biche. » Ce personnage était resté un peu comme ça. Et puis c'est vrai que le trio, pour moi, c'était un peu reconstituer les pieds nickelés. J'ai appris à écrire mal avec les pieds nickelés.
Alors ceux de Pelos ou ceux de Forton ?
Ceux de Pelos. J'ai découvert ceux de Forton après.
Ceux de Forton sont pas mal.
Ah, ils sont superbes. Mmh. Enfin, là, on est carrément dans le truc anarchiste. Le saut de Pélos, c'est un peu plus... Mais le trait de Pélos, c'était tellement magnifique avec ses pleins... Enfin, ces scènes de bord de mer sont magnifiques.
Mmh. Alors, vous avez tout à fait raison de parler d'Arsène Lupin et des Pieds Nickelés, parce que Sous les Galets et la Plage, pour moi, c'est un mix assez parfait des deux. Il y a Lupin pour la finesse, il y a les Pieds Nickelés pour les combines toujours un peu foireuses. Et vous aimez bien le côté bras cassé. Ces personnages qui n'ont pas les moyens de leurs ambitions. C'est un point que vous partagez d'ailleurs avec la bande Caverne de l'Épine, ou les Deschiens, bien entendu.
Oui, ben un
peu. On s'y retrouve encore.
Enfin, moi, c'est un peu... j'ai été bâti à l'échec, donc...
Bâti à l'échec. Je ne connaissais pas l'expression. Vous avez été bâti à l'échec.
J'ai redoublé.
Bâti aux échecs.
Non, pas aux échecs, je ne suis pas très bon. Je suis meilleur aux dames. Mais non, j'ai commencé à redoubler en CE2. Mm-hmm. Et j'ai failli redoubler toutes les autres classes, même aux Beaux-Arts, c'est dire. Mm-hmm. Donc non, j'étais... c'était un peu dans les gènes. Donc c'est vrai que... Ces personnages qui n'ont pas l'ambition de laisser de traces, c'est paradoxal, je fais des bouquins, m'intéressent plus que les grands de ce monde. Donc les petits ruisseaux, quand j'avais fait ça, c'est pareil, je suis fasciné par les voitures sans permis. Alors vous dire pourquoi? Je sais pas, j'ai pas été violé par oui, c'est ce genre qui roule avec une voiture sans permis. Les gens qui se sont fait sucrer les poings, Et puis c'est tellement ridicule que ça devient presque touchant. Mmh. Donc en fait moi je suis touché par la fragilité, il y a du moche très beau.
Mmh. Ouais, absolument.
Faut pas dire ça à tout le monde.
Mmh. Arsène Lupin, les Pieds Nickelés, et peut-être un peu de Robin des Bois, ou en tout cas dans l'esprit du meneur de ces casses, puisque pour lui c'est une manière de faire circuler l'art. Est-ce qu'on doit y voir un message caché?
Il se trouve des alibis aussi, Pépère. Hein. Non, mais il y a un message. Oui, c'est une façon aussi de. Mais c'était Marius Jacob qui s'était retrouvé à cambrioler la maison de Loti, et qui s'est aperçu de Pierre Loti, s'est aperçu que c'était un écrivain, et du coup il avait tout remis en place en disant je ne touche pas à l'art. Mais
parce qu'il ne savait pas la vérité sur Pierre Loti.
Voilà,
il était une belle salafrique.
Il savait pas tout. Mais c'est une petite. Il se trouve un peu des circonstances atténuantes. Enfin, il fait du fric avec et il vit dessus. Mais oui, c'est. Il a pas totalement tort.
Nous parlerons de Sous les Galets, la plage, avec son auteur Pascal Rabaté. C'est édité chez Rue de Sèvres et nous allons en reparler dans un instant. Mais là, je vois qu'il est déjà 16h31. Ça veut dire que c'est l'heure des Pop News.
Et un inédit signé Tame Impala. Kevin Parker s'apprête à ressortir The Slow Rush, quatrième album du projet, paru en février 2020. Une nouvelle édition augmentée de Face B et autres titres jamais entendus comme ce No Choice. No Choice à retrouver sur The Slow Rush Deluxe, dont la sortie est prévue le 18 février.
C'est au titre de parrain du jury du prix BD FNAC France Inter que je m'exprime aujourd'hui pour vous dévoiler les 5 bandes dessinées finalistes en lice pour cette prestigieuse récompense. Jour de sable d'Aimé de Jong, dessiné encore de Coco, L'étreinte de Jim et Laurent Bonneau, 1984 de Xavier Coste d'après George Orwell et Le cœur des femmes d'Eau de Mermilio et Martin Vinclair. Une commission finale présidée par votre serviteur et composée de journalistes et de libraires FNAC désignera le lauréat entre ces 5 albums. Son nom... Il sera révélé le jeudi 6 janvier 2022 à 16h40 en direct, ici même et dans Pop Pop. Et d'ici là, je vous engage à embrasser la bague.
Le parrain du Béarn. Le documentaire d'une fille sur sa mère et peut-être un peu l'inverse aussi, c'est le propos de Jane par Charlotte et Birkin vu par Gainsbourg, ça sonne comme ça.
On a toutes les deux une pudeur, l'une en face de l'autre, et je sais pas d'où elle sort.
Comme tu m'intimidais comme enfant, je me sentais très privilégiée d'être dans ta présence. C'était pas banal. Alors, ça commence bien.
À un moment donné, tu te reconnais pas.
Il y a ça, un moment où on s'en fout.
Je pense que j'y arrive à le moment où on s'en fout. Il faut mieux juste enlever ses lunettes, comme ça tout est flou.
Un échange inédit sur plusieurs années. Jane par Charlotte, ça sortira le 12 janvier.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine de Caunes.
Et nous, notre auteur à nous, Pascal Rabaté, l'auteur de Sous les galets la plage, ben je crois qu'il est en lice pour Angoulême. Mm-hmm. Les informations sont bonnes, non? Excellente. Alors, ben, reparlons un peu de ce livre, mon cher Pascal. Ces trois étudiants, les trois personnages de votre livre, qu'on entend marcher sur les galets, c'est bien ça qu'on essaie de me faire croire en ce moment. Ces trois étudiants ignorent le chômage, ils ne connaissent pas le sida, ni le réchauffement climatique, ou le terrorisme. Et c'est normal car nous sommes en 1963. Ça n'a pas été trop étrange de préparer cette BD en plein confinement, en remplissant des autorisations de sortie pour aller sur la fameuse plage de Loctudi, tout en faisant des apéros Zoom avec vos amis?
Alors non, j'avais fait les repérages avant, et j'ai signé le livre juste fin janvier. Et après, bah, j'ai passé 2 ans à écrire sur mes cahiers d'écoliers, parce que les magasins de papier étaient fermés, donc je faisais des collages. J'ai fait un storyboard qui faisait 6 kilos, un truc énorme, je faisais des rustines. Donc ça, j'ai retrouvé un espèce de confinement naturel de l'auteur. Donc j'étais dans mon atelier à Nantes, je me disais, dehors les gens sont malades, on toussait un peu, mais bon. Mais non, je suis pas retourné sur place. J'ai fait quelques photos à ce moment-là, mais après j'ai rêvé un peu ma côte. C'est pour ça que j'ai pris, comme à chaque fois qu'on dédicace, il y a toujours un exégète qui arrive et qui vous dit l'enjoliveur de votre Juve à 4 n'est pas celui de l'époque de 62. Je me suis dit là, je suis mort. J'ai fait des maisons qui n'existent pas, donc j'ai botté en touche en mettant Kertudi au lieu de Loctudi.
Et puis ce roman graphique, on le disait, c'est aussi une histoire d'amour, celle qui va se nouer entre Albert, fils de militaire destiné à le devenir, et Odette, la jeune fille qui aimerait oublier son passé et à l'avenir incertain. L'amour serait donc la plus grande et dangereuse des aventures. On en déduit donc que sous le cœur rebelle se cache une fleur bleue.
Ah mais, un chardon. Oui. Je crois que ça faisait un moment que j'avais pas fait un bouquin positif. Enfin, j'alterne un peu dépression guillerette ou bonheur triste. Donc là, je me disais que j'avais envie de changer un peu de registre. Et puis, je voulais donner un peu d'espoir dans ces jeunes. Après, on va savoir qu'est-ce qu'ils vont faire. Katangais en 68, Biknik en Inde en 70, on verra. Mais voilà, c'était vraiment raconter une histoire d'amour impossible entre deux milieux. C'est essayer de croire que ces choses-là peuvent se télescoper. Et puis...
Et comme vous le dites très bien, Pascal Rabaté, fleur bleue ou cucu, ça dépend où on se pose. Hein.
Oui, voilà. D'accord. Et vous surtout sur un chardon.
Ouais. Vous sentez plus fleur bleue ou cucu après cet album?
Fleur cucu, on va dire, je vais faire un mix. Ouais, je suis cucu, j'assume, je suis un peu concon aussi.
Un peu concon, un peu cucu.
Oui, non, faut assumer ça, puis après, poète c'est trop gros, non, je suis cucu.
Cucu.
Sympa cucu,
d'accord. Okay.
C'est un livre en noir et blanc et différentes nuances de gris, nous sommes en Bretagne en septembre, comment est-ce que vous avez travaillé cette lumière d'arrière-saison, qui est quand même très particulière?
Alors, je sortais de la déconfiture juste avant où j'avais travaillé beaucoup sur des gris mais en aplat, puis un dessin un peu au pinceau. Là, je voulais qu'il y ait du nerf dans le dessin, mais je voulais qu'il y ait aussi des nuances de gris, donc il y a eu un travail à la plume. Et puis après, je suis revenu avec de la graphite, enfin de la mine de plomb, où j'ai un peu fait moduler un peu les visages, essayer de poser mes spots. Un peu comme au cinéma où je me dis je vais faire mon éclairage comme ça, puis je vais essayer de jouer un peu sur les ombres. Mais je voulais aussi que les ombres parlent, parce que c'est vrai que l'expressionnisme fait partie de...
Ça vous a marqué, hein, l'expressionnisme.
Ouais. Mes grosses influences, enfin que ça soit au cinéma ou en art, hein, ça va de... En effet, de Murnau, en passant par les Dix, Grox, Kirchner et autres. Et donc c'est vrai que c'était... un cinéma, et c'était un travail sur la lumière et sur le cru. Et voilà, du coup, je voulais avoir les deux, mais je voulais aussi avoir des gris là-dedans qui ramènent un peu, non pas de douceur, mais de nuance.
Et alors, il y a aussi beaucoup de scènes de nuit, notamment celle de l'arrivée à la plage de la mystérieuse Odette, dont la silhouette commence par se découper sur le sable. Et vous dites, l'important, c'est ce qui reste dans le noir. C'est très étrange pour quelqu'un qui dessine. Ce genre de choses. Comment ça se travaille?
Ah, ça, c'est une citation de Fritz Lang qui disait qu'on a plus peur de ce qui reste dans le noir que de ce qui est en pleine lumière. C'est d'ailleurs un des trucs étonnants, c'est que Goebbels avait voulu le dévoyer, l'emboucher, et tout le cinéma allemand, il surspotait, il surallumait tout pour que justement ne rien cacher. Mmh. Et ne rien cacher, c'est ne rien dire. Donc c'était ça en fait, mais c'est dur de poser du noir sur un dessin parce que on perd en détail et c'est de faire confiance au lecteur pour qu'il reconstitue en fait les petits éléments qui manquent. Ça veut pas dire que le dessin il faut pas qu'il soit structuré, mais il faut se dire ben jusqu'où je peux noircir le dessin et jusqu'à ce qu'il reste lisible, quoi. C'est un peu ce jeu qui se...
Vous évoquiez l'album précédent, La Déconfiture, qui ressort en format poche là ces jours-ci chez Futuropolis. Moi, j'ai été frappé en regardant d'un peu plus près votre travail de voir que dans la masse d'albums que vous avez produits, vous changez souvent de style, ou plutôt que vous adaptez le style, la forme au fond de l'histoire. C'est quoi ? C'est presque un mantra, ça, pour vous ?
Oui, c'est un mantra. Puis c'est, j'ai la chance de vivre de ma passion. Donc le moindre des choses, c'est de le mériter. Donc c'est d'aller essayer autre chose. Donc c'est un peu de fouiller, de se dire. Alors bon, je le cite souvent, mais c'est vrai que la phrase est tellement belle. C'était Hugo qui disait que la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Mais c'est vrai que quand j'ai un projet, il faut que je trouve son habillage. Et puis moi, ça me permet de savoir si ça va tenir ou si ça va pas tenir.
Comment vous le trouvez ? Comment vous décidez pour tel ou tel habillage ?
Je cherche. Sur la déconfiture, j'ai dû refaire 6 versions des 30 premières pages avant de trouver quelque chose qui me contentait, où je me disais, tiens, ça fait partie de l'époque. Sur celui-là, ça a été un peu pareil. Mais je refais beaucoup. Puis après, enfin, l'ancrage, il faut que ça devienne une écriture. Donc une fois que la machine, elle est lancée, c'est pas un diesel, parce que ça fait des trous dans la couche d'ozone, mais je suis un espèce d'outil où les choses... Je me situe comme un saint Thomas du dessin. Moi, faut que je dessine pour me rendre compte que c'est raté. Mais je m'essaye comme ça sur différents supports. Et puis à un moment, je me dis ah c'est pas mal. Je me reconnais pas. En fait, quand je me reconnais pas, je me dis c'est peut-être bien. C'est bizarre, hein, mais bon.
Et le type de récit change tout au long de l'histoire pour atteindre un climax tendu dont je ne dévoilerai rien. La dernière planche offre une résolution sous forme de clin d'œil assez jouissif, je dois dire. Est-ce que vous l'aviez envisagé dès le début ou c'est venu au fil du récit ?
Non, j'ai changé les prénoms au cours de récit. En me disant, mais oui, évidemment.
Et vous êtes obligé de tout refaire en pendant tous les minutes.
Je me voyais pas finir l'album avec RPR. Donc, le truc est venu comme une évidence, mais c'est venu après le récit. Enfin, ce qui était important, c'était cette histoire d'amour, et puis après, on trouve des choses qui peuvent appuyer, qui peuvent un peu, tout d'un coup, mettre un autre relief et mettre,
Sous les galets et la plage, c'est signé PR, donc, Pascal Rabaté. C'est à retrouver aux éditions Rue de Sèvres, et vous l'aurez compris, c'est extrêmement recommandé par Pop Pop Pop. Pascal Rabaté, dans la suite de l'émission, nous parlerons de...
What are you doing?
Are you Dexter Morgan?
Mais vous écriviez déjà?
Non, mais je sais pas, ça me sort de partout.
À l'envie me démange de vous mordre le cou. Si vous ne m'aimez pas, vous m'aimez Emeline, n'est-ce pas? Oui!
Et tout ça, ce sera juste après Je veux un chien. C'est une demande étonnante, hein, mais c'est la chanteuse bretonne, évidemment, Yael.
Je veux un chien. Si je te laisse dans un coin.
Je veux un chien. C'est un morceau sur lequel on peut donc danser pour transpirer du beurre, si on se trouve en Bretagne, comme dirait notre chroniqueur Loïc Prigent. Vous écoutez Pop à Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et oui, ce son de la SNCF, c'est une fois de plus ce qui évoque la pop culture, en particulier auprès de vous, Pascal Rabaté. C'est amusant car c'est la seconde fois en une semaine qu'un invité cite ce son lié à la SNCF. Qu'est-ce qui se passe avec la SNCF et la pop culture en ce moment ?
Ben, moi je prends beaucoup le train.
Ben voilà. Ben oui, mais enfin, vous prendriez beaucoup l'avion, ce ne serait pas un décollage d'avion qui vous évoquerait la pop culture.
Ah non, 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 non. Non, mais je ne sais pas, je trouvais que c'était joli. Pom, 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 pom. Enfin, je fais très bien.
Non, c'est mais,
c'est autre chose. J'aurais peut-être un peu moins de voyageurs. Mais c'est vrai que je trouve qu'il y a un petit espoir que le train arrive.
Un petit espoir que le train arrive, dit donc un habitué de la SNCF. Pascal, montez à bord de notre train Intercité direction la pop culture, c'est l'heure de votre pop list. Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique, une série du moment. Le livre du moment pour vous, Pascal Rabaté, c'est La jeune femme et la mer de Catherine Meurice. Charline, direction le Japon, une autre forme de bord de mer.
Je voudrais peindre la nature. C'est le projet de la dessinatrice française partie en territoire japonais, mais la nature est changeante et pas toujours conforme à l'image qu'on s'en fait. Sur son chemin, elle rencontre un peintre japonais qui, lui, voudrait peindre une femme. La femme en question pourrait être Nami, la jeune femme de l'auberge thermale où les deux artistes vont séjourner. Une femme mystérieuse qui semble liée aux éléments naturels.
Mmh. Pascal, auriez-vous la gentillesse de nous en lire 2-3 bulles, s'il vous plaît ?
2-3 ou la page ?
Bon, alors, comme vous voulez.
Frep. Alors, la jeune fille pousse la fenêtre. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ici ? J'allais vous demander quel est votre projet. J'aimerais peindre la nature. Si je pouvais renouveler ma banque d'images mentales par trop occidentale, ce serait formidable. Vous parlez japonais ? Je ne connais que bonjour, konnichiwa, merci, arigato, merci beaucoup, domo arigato, s'il vous plaît, onegai shimani, à bientôt, matani. C'est beau.
C'est beau. C'est voilà. Un extrait donc de La jeune fille et la mère de Catherine Meurice. Pourquoi avez-vous choisi ce livre, Pascal Rabaté ?
Ah, parce que j'avais trouvé très très beau. Enfin, le Catherine Meurice est une dessinatrice extraordinaire. Ça, à la fois vif, c'est en effet, je revois un peu la grande époque de Brett Eché. Ouais. Il y a quelque chose de cette évidence dans le dessin. Et puis l'album qui aurait pu être un simple récit de voyage est très très beau, enfin à la fois philosophique, à la fois magnifique. Enfin, il y a son trajet, le trajet qu'elle a dans cet album est narratif et formidable.
Et puis là, comme dans Sous les galets et la plage, il est question d'une jeune fille et de la mer.
Voilà. Et puis il y a aussi ce regard sur l'art qui est vraiment très très beau. Et la mise en couleur d'Isabelle Merlet magnifie le dessin, je trouve. Donc c'était vraiment une belle lecture.
Bien. Pascal Rabaté, votre film du moment, c'est Chère Léa de Jérôme Bonnel avec Grégory Montel, Grégory Gadebois, Grégory de Moustier, non Anaïs. Charline, je vous annonce un film absolument délicieux, mais ça ne nous dit pas de quoi ça parle.
Après une nuit arrosée, Jonas décide sur un coup de tête de rendre visite à son ancienne petite amie Léa, dont il est toujours amoureux. Promptement éconduit, il décide d'aller lui écrire une lettre dans le café d'en face, intriguant au passage le patron du dit café.
Vous n'auriez pas un stylo et du papier ?
Je connais tellement.
Sauf qu'on s'aime plus.
Je vois la ligne de votre main. Vous êtes très fatigué.
Vous voyez ça dans ma main ?
Dans votre tête.
Mais vous avez trouvé ça bien ou...
Mais vous écriviez déjà.
Non, mais je sais pas, ça me sort de partout.
C'est bien plus qu'une lettre. Pourquoi j'aimerais bien savoir la suite ? Ça donne envie.
Un film absolument délicieux que ce Chère Léa de Jérôme Bonnel que vous avez choisi, Pascal Rabaté. Partager cette impression.
Ouais, j'ai vu ça en avant-première. C'est vrai que le film, c'est une petite musique qui est un peu en dehors de toutes les époques. Il y a quelque chose d'assez joli, de poétique. Mmh. Pourrait faire penser un peu à la littérature de Toussaint. C'est assez délicieux, en effet. Un travail magnifique au niveau de l'image et puis un travail de son parfait. Donc il y a quelque chose. Enfin, c'est un cinéma qui laisse jouer les acteurs et on sent qu'il y a eu une belle communion entre tous. Là. Léa Drucker est absolument étonnante.
Mm-hmm. Elle a un tout petit rôle alors que le film s'appelle Cher Léa.
C'est
un paradoxe. Hein. Mais et puis Grégory Gadebois.
Oui.
Oh, Grégory.
Qu'on peut écouter parler pendant des heures.
Mais Grégory Gadebois, Grégory Gadebois, si vous nous écoutez, venez faire cette émission. Vous avez ici porte ouverte, enfin.
Et je crois qu'il a repris Des fleurs pour Algernon, en plus pour la pièce pour laquelle on l'avait reçu, dans laquelle il est formidable.
Recevons-le à nouveau, et aussi Grégory Montel et Anaïs de Moustier. Très très joli petit film. Non, je ne dis pas petit d'ailleurs, c'est un péjoratif. Très joli film, tout simplement. La série que vous attendez en ce moment, Pascal Rabaté, c'est Dexter, qui reprend sous le titre New Blood à partir du 16 décembre sur Canal. Charline, ça va saigner ou on a réussi à stopper l'hémorragie?
C'est pas sûr. 10 ans après sa disparition, Dexter Morgan vit désormais loin de Miami, sous une autre identité, dans une petite ville de l'État de New York. Et évidemment, l'ex-expert médico-légal de la police voit son dark passenger refaire surface. Je peux être un monstre, mais je suis un monstre évoluant. Qu'est-ce que tu fais? Es-tu Dexter Morgan? C'est moi, ton fils. Pascal Rabaté, choisir un psychopathe fait-il automatiquement de vous un psychopathe?
Je ne juge pas, je pose la question.
Oh, je ne pense pas, je ne pense pas. J'exorcise avec cette série, j'exorcise.
Ça vous évite de passer à l'acte?
Oui, je tue quelques moustiques l'été, mais c'est bien tout.
Et alors pourquoi Dexter vous plaît tant alors?
Alors, la première saison avait été... Plastiquement, c'était une merveille. Il y avait des installations qui faisaient penser à des installations d'art contemporain avec les fils et tout ça. Deuxième, ça avait un peu baissé. Enfin, ça avait baissé tout le temps, en fait.
Il y a un petit rebond avec la 3 quand même, avec le Trinity Killer qui est
pas si mal. Oui. Mais c'est vrai que la première était tellement haute. Donc, je regarde la 4e en espérant qu'il y ait un rebond, en me disant ils ont eu 10 ans pour écrire, ils vont quand même remonter au moins à la 3e. Mais non, j'aimais beaucoup cette espèce d'esprit des scénaristes de... C'est des méchants, quoi.
Mais puisque vous intéressez à la plastique, c'est quand même un des plus beaux génériques de série qu'on ait vu.
Oui.
Ça parle d'un tueur en série, et on le voit en gros plan découper des choses, rouge, on ne sait pas ce que c'est, et en réalité, il est en train de préparer son petit-déj.
Ça donne faim.
Ouais.
Ça donne faim. Terminons cette pop-list avec votre chanson du moment. Pascal Rabaté, cette chanson, c'est Miss Emily de Charles Trenet. Alors, ce n'est pas une chanson qui vient de sortir, c'est pas, on va pas parler du perdreau de l'année, non, mais c'est une chanson que vous avez réécoutée récemment en redécouvrant vos vinyles, et il était charmant, elle était anglaise. Pourquoi celle-là en particulier de Trenet?
J'ai hésité avec la chanson de Mowgli, Il en faut peu pour être... que j'avais voulu mettre dans les petits ruisseaux.
De salle de ambiance.
Ouais, et Disney n'avait pas voulu, ou alors c'était très très cher. Et Miss Emily, c'est en essayant de refaire ma discothèque que je me suis aperçu qu'il y avait du moisi entre les disques. Et le pauvre Charles avait pris un coup de champignon sur toute la pochette.
Ouais.
Et donc en relisant, je me suis dit, en plus c'est celle où il y a Miss Emily qui est une chanson que j'adore. Je trouve qu'elle fout la pêche. Enfin, traîner fout la pêche.
Ouais.
Après, j'écoute plus souvent quand même de l'électro et du punk que du Charles Trenet, mais je pense que c'était le ferment de tout le mouvement punk qui s'ignorait.
Je vous suis tout à fait dans cette direction-là. Bah tiens, redonnons la pêche à nos auditeurs avec un petit coup de Charles Trenet.
S'était rencontré en gare de Budapest, mais lorsqu'elle arrive en tout deux en gare de l'Est, soudain brine un culot, excessif à cet âge, il lui dit, voulez-vous que je porte vos bagages? 6 mois après, ils étaient mariés, il était charmant, elle était anglaise, et tout le jour, il soupirait, cette chanson ne vous déplaise, Miss Emily, vous êtes la muse du poète, le poète c'est moi, avec un grand chapeau, et la muse c'est vous, couverte d'oripeaux, Miss Emily, cher ange, à l'envie me démange, de vous mordre le cou, si vous ne m'aimez pas, vous m'aimez, Emily, n'est-ce pas? Oui! Ah! quoi qu'il arrive, vous êtes passé sur ma rive. Quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, le temps s'enfuit et tout s'efface. Il se montra très doux, elle se montra coquette, elle lui flanquait les coups, il en restait tout bête. Il faisait le marché, balayait le salon, il réparait l'évier, le toit de la maison. 6 mois après, il ne marchait plus. Il était bancal, elle était anglaise et malgré ça toujours émue. Il lui chantait « Ne vous déplaise, Miss Emily, vous êtes la muse du poète. Le poète, c'est moi, avec un grand chapeau, et la muse, c'est vous, couverte d'oripeaux. Miss Emily, cher ange, à l'envie me démange de vous mordre le cou si vous ne m'aimez pas. Vous m'aimez, Emily, n'est-ce pas ? Oui ! Ah ! quoi qu'il arrive, vous êtes passé sur ma rive. Quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, le temps s'enfuit et tout s'efface. Un jour, il eut assez de cette vie de bagne. Il amène Emily un soir sur la montagne, soi-disant pour cueillir d'innocents champignons. Mais il a son idée le mignon. C'est un couteau qu'il brandit soudain. Il était terrible, elle était anglaise, mais au moment de mourir un brin, il lui chanta « Ne vous déplaise, déplaise. Miss Emily, vous êtes la veuve du poète. Le poète, c'est moi, avec un grand couteau, et la veuve, c'est vous qui me tuez bientôt. Miss Emily, je pleure, des larmes comme du beurre. Mais avant de mourir, mais avant mon trépas, vous m'aimez, Emily, n'est-ce pas ? Oui ! Ah ! Je me décide, vers ce charmant petit suicide. Quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, le temps s'enfuit et tout s'efface. »
Miss Emily, Charles Trenet dans Pop 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 sur France Inter, grâce à Pascal Rabaté, puisque c'était notre invité et que c'était son choix musical. Merci infiniment, Pascal. Pascal, chaque semaine, Alexandre Verret nous présente le fruit de son travail bien mûr, vous allez voir. Ça s'appelle Le Grand N'importe Quoi, une séquence que je vous propose de découvrir tout de suite.
Attention, s'il vous plaît, si ton tonton, 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 ton tonton, tonton, tonton. Ah non, erreur, autant tonton, 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 pour moi.
N'importe quoi, n'importe quoi. Te revoilà enfin, mon bon Guzmok. Alors, quelles sont les nouvelles ? Non, c'est pas vrai. Redis-moi ça. Ouf, autant pour moi, j'avais compris l'inverse.
N'importe quoi, n'importe quoi. Je suis dégoûté. Yeah, yeah. Wow, wow.
Ouais.
Mon autotune ne fait que planter. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Ça fait chier.
Merci Alexandre Verret, Le Grand N'importe Quoi, c'est chaque semaine dans Pop Pop Pop. Et merci donc Pascal Rabaté. Avant de découvrir Les Cendants, votre film en avril entre les deux tours de l'élection présidentielle, je rappelle que votre BD Sous les Galets, la plage, est édité chez Rue de Sèvres et plus que recommandé par Pop Pop Pop, tout comme la réédition en poche de du petit avant-dernier, La Déconfiture, qui est lui chez Futuropolis. Merci de nous avoir rendu visite.
Merci à vous.
Merci Charline.
Merci.
À demain. Demain, nouveau numéro de Pop Pop Podcast avec Mehdi Maizi qui vient parler de rap. Mais avant demain, rendez-vous partout sur les internets 3615 Pop Pop Pop.